Voisine, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. C'est l'été chez 7 milliards de voisins et nous prenons le temps d'une série d'étés pour comprendre, imaginer, pour faire comme si nous vivions dans une autre ville. Chaque jour, une escale, chaque jour, une autre façon d'habiter, d'occuper l'espace, de bouger ou d'aimer. Et aujourd'hui, vivre dans une ville austère, Riyad, en Arabie Saoudite. Bonjour Clarence Rodriguez.
Bonjour.
Vous êtes la seule femme journaliste accréditée dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Vous êtes entre autres la correspondante de RFI. Vous vivez dans cette ville austère depuis presque 10 ans.
Presque 10 ans, absolument.
Vivre dans une ville austère, Riyad, Clarence Rodriguez, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission. Il faut le défendre maintenant.
Pourquoi austère ? Parce qu'en fait, c'est une ville pesante de par cette chaleur qui s'abat sur cette ville, mais également les contraintes auxquelles, ma foi, on doit faire face tous les jours. Et j'ai envie de dire, tous les jours, pour les femmes surtout.
Ah justement, vous publiez Révolution sous le voile, 8 femmes racontent leur combat pour leurs droits. C'est une ville qui était considérée il n'y a pas si longtemps par un classement du journal américain Business Week, la 3e pire capitale dans le monde, après Lagos au Nigeria, après Jakarta en Indonésie. Sous-entendu, la limitation des droits, le climat, l'absence de culture, de loisirs, les restrictions sur les visas, sur les tenues vestimentaires, sur la nourriture, sur l'alcool. Bref, vivre dans une ville austère, c'est tout ça.
Oui, et puis finalement, on survit, hein, puisque ça fait quand même 9 ans et demi, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que, en fait, si vous voulez, il faut presque être schizophrène pour vivre en Arabie Saoudite. Surtout quand on est occidental, qu'on a des bonnes ou mauvaises habitudes, je veux dire, en tant que bonne française ou occidentale. Et c'est vrai que très peu de culture, pas de cinéma, on vit, si vous voulez, aux antipodes d'ici en France.
Dans une ville austère, Riyad, en Arabie Saoudite. Qui le croirait, vu le programme musical ? On est ensemble pour vous suivre, Clarence Rodriguez, vous qui dansez déjà dans le studio. En tout cas, on vous suit pas à pas. Vous en parliez tout à l'heure, une ville oppressante. Sous le soleil de Riyad, il peut faire jusqu'à 50 degrés à l'ombre.
En ce moment, oui, c'est vrai. Vous voyez, donc cet été, c'est ça, c'est 50. Ça peut aller même jusqu'à 55.
4 degrés l'hiver, on perd donc 45 degrés.
Le matin, on peut se réveiller, effectivement, avec 4 degrés. Et puis, surtout avec une amplitude thermique énorme. À midi, peut faire 22, 23. Donc on ne sait pas comment s'habiller.
Sans parler des tempêtes de sable.
De sable et puis également des inondations. Hein.
C'est une ville de quand même 5 millions d'habitants. Il y a plus de 5 millions d'habitants qui s'est bâtie autour de ce postulat, les températures extrêmes ou pas vraiment ?
Oui, un petit peu, puisqu'en fait, je vais vous dire, on ne vit pas dehors. On vit dans les maisons. On vit dans les malls qui sont les centres commerciaux, réfrigérés. Je dis bien réfrigérés, vous voyez, donc c'est l'air conditionné. Les voitures sont pareilles, vous avez l'air conditionné. Donc on ne vit pas dehors.
À l'abri des grosses chaleurs, à l'abri des regards aussi.
Oui, oui, c'est vrai.
Vivre dans une ville austère et en même temps vivre dans la huitième ville au monde qui concentre le plus de milliardaires.
Mais alors on ne les voit pas. Franchement, autant on peut les voir en France ou dans l'annexe, j'appelle l'annexe de l'Arabie Saoudite à Cannes, par exemple. Mais en revanche, en Arabie Saoudite, ils sont très discrets. On ne les voit pas. Alors, c'est vrai que vous voyez des grandes maisons, des palais, etc. Mais dans certains quartiers, en tous les cas. Mais c'est pas ostentatoire. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, ils portent, vous savez, le tob, c'est cette robe blanche que portent les hommes avec le chmar à damier rouge et blanc. Les femmes avec la baya, vous voyez, bon. En fait, il y a une uniformité sur le plan vestimentaire, c'est-à-dire qu'on ne on se rend pas compte si cet homme ou cette femme appartient ou appartiennent à telle couche sociale. Bon, voilà, donc c'est, on ne le voit pas, ça.
Là, vous parlez des Saoudiens à Riyad. Hein. Alors, combien sont-ils en pourcentage de la population dans la capitale du royaume ?
Vous savez, la manne pétrolière permet d'alimenter près de 6 000 princes, familles donc saoudes, des princes. Voyez cette manne pétrolière. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que on le dit, hein, elle est mal répartie quand même, hein, cette manne. Ce n'est pas tout le monde qui profite donc de cette manne pétrolière. Mais une chose qui est quand même importante, c'est que, encore une fois, on n'est pas dans l'ostentation, on n'est pas dans le tape à l'œil. C'est fou parce que quand on voit les Saoudiens ou les Saoudiennes en France ou autre, on peut les reconnaître. Vous voyez, par rapport à la frénésie d'achat, etc. Mais pas là-bas. On est toujours dans le côté un peu discret. En fait, voyez, on se cache.
Vivre dans une ville austère, Riyad, à l'abri des regards, en Arabie Saoudite.
Prendre le volant, un acte militant pour cette Saoudienne. Dans ce royaume conservateur, il est interdit aux femmes de conduire. Difficile de se déplacer seule dans un pays où les transports en commun sont peu développés. No woman, no drive. No woman, no drive. Say, 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 I remember when you used to sit in the family car, but backseat over is all safe and well, so you can make lots and lots of babies. Good friends we've had, and good friends we've lost on the highway. In this bright future, you can't forget your past, so put your car key away. No woman, no drive.
No Woman No Drive, parodie de la chanson de Bob Marley, No Woman No Cry. Pourquoi cela, Clarence Rodriguez, à Riyad ?
Alors c'est Hicham Faji, hein, qui est en fait un jeune Saoudien, humoriste, qui s'est exilé aux États-Unis et qui fait partie justement donc, d'une troupe à New York, c'est Arab American Comedy Festival. Et c'est un jeune qui a tourné en dérision, donc tout ce que les femmes ne peuvent pas faire, et notamment effectivement la conduite. Parce que c'est, vous l'avez dit, c'est le seul pays au monde où la femme n'a pas le droit de conduire. Alors lui, quand il fait No Woman to Drive, plus de 10 millions de vues sur YouTube quand même, c'est hallucinant. Et en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est de tourner à la dérision, notamment cet imam qui, à un moment donné, dit que si la femme conduit, ça peut nuire donc à ses ovaires. Enfin, d'ailleurs, il le dit dans son texte,
sa chanson.
Sa fertilité. Donc, elle ne pourra pas avoir d'enfant parce qu'elle va conduire. Vous imaginez un instant. Alors, il tourne à la dérision, tout ça.
Il faut bien préciser que, quel que soit son rang, quel que soit ses revenus, quelle que soit sa nationalité, être une femme à Riyad, hein, et vous y compris, c'est d'abord vivre dans ce seul pays au monde qui interdit aux femmes de conduire une voiture.
Oui, et puis je vais vous dire, c'est très handicapant. Parce qu'y compris pour moi, en tant que femme et qui vit là-bas, on ne peut pas se déplacer si on n'a pas de chauffeur. Si on n'a pas de chauffeur.
Il n'y a pas de transport public, des taxis.
Il
n'y
a pas de transport public pour l'instant. En ce moment, je sais que bon.
Il y a des taxis.
Il y a des taxis, mais si vous voulez, ils ne parlent pas anglais. Donc la plupart, ce sont effectivement des expatriés, des immigrés qui ne parlent pas l'anglais. Donc c'est déjà aussi le barrage de la langue, c'est un problème.
Ils parlent quoi ? Arabe ?
Arabe. Mais encore, vous voyez, donc voilà.
Ils ne viennent pas de la péninsule. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas de chauffeur, ben, il faut vous débrouiller. Le 4 novembre dernier, en Arabie Saoudite, vous avez près d'un million et demi de travailleurs immigrés en situation illégale qui ont été expulsés. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec une main-d'œuvre, enfin une pénurie de main-d'œuvre et donc pénurie de chauffeurs. Alors, comment on s'organise ? Eh bien, on est obligé d'appeler et de faire appel à des sociétés qui, elles, disposent de volants de chauffeurs. Donc, on est obligé de se débrouiller parce que tout est grand. Vous savez, Riyad, c'est une ville qui s'étend, c'est 70 km carrés. Donc tout est grand, tout est vaste. Et si on n'a pas la voiture, on ne peut pas se...
Donc c'est plus qu'un problème de riches, la pénurie de chauffeurs
complètement.
En Arabie Saoudite.
Mais absolument. Il faut voir que c'est une nécessité. Et le problème, c'est que, vous savez, dans le combat que mènent certaines femmes, en fait, c'est que vous avez des hommes qui les appuient. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là, et je parle aussi des Saoudiens, que ce soit des Occidentaux ou des Saoudiens, ils sont obligés, par exemple, d'interrompre leur boulot pour accompagner l'épouse faire des courses.
Ou pour envoyer l'unique chauffeur du couple, effectivement, avec l'épouse qui doit faire des courses.
Des courses, ou emmener le gamin à l'école, ou le petit chez le médecin. C'est la réalité.
En même temps, quelle proportion de femmes peut disposer d'une voiture et d'un chauffeur, sachant que le chauffeur est payé le plus souvent par le mari ?
Ah,
ça
oui.
Aussi, c'est encore une autre forme de...
Pour l'instant, mais les choses sont en train d'évoluer.
Le travail des femmes, on va en reparler.
On en reparlera, effectivement.
Bon, mais là, restons sur cette mobilité qui est quelque chose d'incroyablement prégnant dans la vie quotidienne à Riyad pour une femme. C'est-à-dire pour la moitié des habitants.
Oui,
peut-être un peu moins. Alors, parce que si on compte la population immigrée majoritairement masculine, il y a probablement moins de femmes habitantes à Riyad que d'hommes.
Oui, il y a moins de femmes, mais ce sont quand même des femmes qui subissent quand même cette contrainte. Et c'est vrai qu'alors, il faut qu'elles se débrouillent, en fait, et que toutes ces femmes se débrouillent. Alors, c'est simple, ça peut être le frère, ça peut être le fils. Et vous savez qu'on interdit aux femmes de conduire, et souvent, vous voyez des jeunes de 12 ans debout sur les pédales.
Donc, des petits garçons.
Des petits garçons, oui, des petits garçons qui sont debout sur les pédales. Et c'est, je vous assure, vous êtes arrêté à un feu, et vous voyez le gamin et vous regardez de nouveau, vous dites mais attends, c'est pas possible, oui, une douzaine d'années.
Alors, on a le droit de conduire à quel âge quand on est un petit garçon à Riyad ?
Ah ben, vous voyez, à partir de 12 ans, 13 ans, il n'y a pas de législation par rapport à ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ils ont voulu légiférer, vous voyez, sur la conduite. C'est-à-dire, ils se sont dit, pour conduire un véhicule, c'est à partir donc de 21 ans.
Ouais. C'est-à-dire discussion sur la sécurité routière, finalement, comme ailleurs.
Mais attendez, c'est conduire en Arabie Saoudite, enfin, au moins à Riyad, je veux dire que ça relève du parcours du combattant. Alors, on dit souvent, il est préférable que les femmes ne conduisent pas parce qu'il va y avoir des accidents. Enfin, vous voyez, c'est quand même ce niveau-là, quoi. Mais en fait, ça conduit n'importe comment. Je veux dire qu'il faut y être et souvent, vous avez la peur au ventre lorsque vous êtes dans votre voiture, parce que vous êtes à l'arrière, hein. Parce que, comme le chantait tout à l'heure Hicham, vous êtes à l'arrière.
Le chauffeur est devant, vous êtes à l'arrière.
Et nous, on
c'est
est
bien
à l'arrière,
ça,
hein. Bien
pourquoi
sûr.
Pourquoi à l'avant, si vous asseyez à côté du chauffeur, à sa droite ?
On n'a pas le droit, parce que alors, c'est quand même incroyable.
On n'a pas le droit non plus ?
Ben non, parce qu'on est proche du chauffeur, et puis on en reparlera peut-être, mais de la non-mixité. Alors qu'on reste quand même plus... Voilà.
Alors, une femme peut-elle quitter le territoire saoudien librement avec son passeport dans son sac ? Vous, par exemple, et les autres, et les saoudiennes.
Oui, bah. Bah, alors, il y a deux cas de figure. En ce qui concerne les expatriés dont je fais partie, j'ai mon passeport, j'ai multi-exit, donc je peux rentrer, sortir comme je veux. À condition quand même que, bon, il y a quand même des démarches administratives à effectuer
au sein
du travail. Non, on le fait qu'une fois. Vous avez un visa multi-exit. En revanche, pour les saoudiennes, il faut qu'elles se munissent d'un papier jaune. C'est l'autorisation du tuteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, elles ne peuvent pas sortir si elles n'ont pas l'autorisation du tuteur.
Le tuteur qui est le mari, le père,
ou même un fils.
Ouais, ou même un fils. Ça n'a pas été assoupli, ça, à un moment donné, discuté ?
Alors, on avait parlé que les hommes, si vous voulez, et c'est arrivé, ça m'est arrivé avec le SMS. C'est-à-dire que dès lors que vous passez l'immigration, on sait que votre femme n'est pas là. Donc, et moi, ça m'est arrivé lorsque je suis allée à Doha.
C'est-à-dire l'immigration envoie un SMS au mari
Tout de suite.
Ou au tuteur.
Oui, oui. Donc moi, heureusement,
donc elle n'a plus forcément besoin du papier jaune, mais le tuteur est averti.
Il est averti. Donc ça, en revanche, ça a été voilà, ça, il y a plus de SMS pour avertir le tuteur.
C'est terminé. Mais il y a toujours le papier jaune ou pas?
Elles ont le papier jaune. Elles ont toujours le papier qui leur permet donc de sortir parce qu'elles ont l'autorisation.
Conduire, sortie du territoire, et puis il y a beaucoup d'autres choses aussi dans la vie des femmes à Riyad.
ابي اشتري سيكل عشان اسابق عبد الله
عمرك شفت بنت راكبه سيكل والله لو افصل قدام المستشفى اللي جنبنا ان اهون علي من هالمشوار اللي كل يوم اروح له وانت جاي تقولي لي ابي سيكل.
Extrait du film Vajda, qui est sorti en février 2013 en France, réalisé par la saoudienne Haifa Al-Mansour, seule femme saoudienne, cinéaste, hein, saoudienne qui d'ailleurs ne réside pas en Arabie Saoudite, si j'ai bonne mémoire.
Absolument.
Qui a tourné en Arabie Saoudite, à Riyad précisément, oui. Dans des conditions assez rocambolesques, il faut bien le dire. Alors là, l'extrait qu'on a entendu, c'est l'histoire d'une petite fille singulière, hein, une préadolescente Vajda qui demande à sa maman un vélo. Ça semble très banal, pour faire la course avec son ami, son camarade de classe Abdallah. Et la mère lui répond qu'aucune fille n'a de vélo.
Oui, parce que c'est interdit. Enfin, au moment où Haifa Al-Mansour, la réalisatrice, a tourné ce film, elle voulait justement mettre en exergue toutes les contraintes auxquelles les femmes sont obligées. Vous voyez, pas de vélo, donc effectivement. Et là, la petite fille qui rêve d'avoir un vélo et qui participe d'ailleurs à une concours de récitation de Coran.
Pour gagner le vélo en question.
Pour gagner le vélo. Parce que si vous voulez, c'est symbolique au travers de ce vélo. C'est ça qu'il faut voir. Le vélo, c'est une chose. C'est vrai que les femmes ne peuvent pas pratiquer le vélo au moment où elle a tourné donc ce film. Mais vous savez qu'un mois après, les autorités ont autorisé les femmes à pratiquer le vélo, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire en portant l'abaya, qui est cette robe longue, noire.
Pas évident quand ça se coince dans les rayons de la bicyclette.
Ouais, déjà, vous voyez, deux, c'est dans des endroits quand même, c'est les parcs, donc il faut que ce soit fermé. Et puis, il faut que vous soyez accompagné de votre tuteur. Donc, vous voyez, déjà, vous n'avez plus envie de faire du vélo, franchement. Donc, du coup, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'Haïfa a participé, on peut dire, à cette prise de décision. C'est donc une petite avancée par rapport à ça.
Donc, on le voit bien vivre à Riyad pour une femme. Alors, on ne va pas parler que des femmes non plus. Il y a aussi les hommes qui vivent à Riyad. Oui, mais oui. Là, on parle des femmes. Vivre à Riyad pour une femme, c'est cette mobilité sans cesse entravée, cette liste d'interdits. Haifa Al-Mansour, d'ailleurs, a travaillé, je ne sais pas s'il faut employer ce mot-là, parce que justement, c'est problématique, mais à gérer, diriger son équipe de tournage d'une façon très particulière aussi.
Exactement. Elle a été obligée de diriger donc ses acteurs et actrices depuis l'arrière d'un camion. Et elle était avec les talkie-walkie. Elle était obligée de... Parce qu'elle ne pouvait pas diriger ses acteurs dans la proximité. Elle ne pouvait pas être, si vous voulez... Parce que c'est, encore une fois, on va parler de la mixité. On n'a pas le droit d'être avec les gens qui ne font pas partie de votre famille. Et c'était également le cas de
Haïfa.
Avec des hommes, bien sûr. Donc elle ne pouvait pas. Donc elle était obligée de se cacher. Et c'est en ça que Wajda est quand même un film culte. Et d'ailleurs, il a eu un tel succès que les gens, quand on parle d'Arabie Saoudite, parlent tout de suite de Wajda. Parce que c'est la première fois qu'on voyait des images des rues de Riyad. Et c'est vrai qu'elle s'est battue, cette fille. Parce que Haïfa, moi justement, je l'ai rencontrée pour la rédaction de mon livre. Je l'ai rencontrée en 2006. Elle m'a dit, tu sais, moi mon rêve, c'est de réaliser un long métrage. Elle faisait des documentaires. Quand on est une femme là-bas, vous apprenez une chose, c'est à vous battre et ne pas baisser les bras. Et elle fait partie de ces femmes.
Alors, elle n'est pas au quotidien à Riyad non plus.
Non, hein, maintenant. Maintenant, mais moi quand je l'ai rencontrée, elle était à Al-Khobar, dans l'est de l'Arabie Saoudite, qui est quand même aussi une zone de plateforme pétrolière, pas facile non plus, hein. Aussi c'est une autre zone austère, et là maintenant bon, elle a épousé donc un diplomate américain, donc elle vit entre les États-Unis et elle revient donc en Arabie Saoudite, mais elle reste avant tout saoudienne, si vous voulez, c'est ça qui est important.
Vivre à Riyad, vivre dans une ville austère, à l'heure d'Internet, à l'heure de la mondialisation, vivre à Riyad, c'est, vous le disiez d'ailleurs Clarence Rodriguez en début d'émission, c'est vivre dans cette sorte de schizophrénie entre le Moyen-Âge, le high-tech, c'est aussi vivre peut-être de compromis, on va y revenir. Vous restez avec nous Clarence Rodriguez, vivre à Riyad, ville austère, on se retrouve juste après le flash sur RFI, chez 7 milliards de voisins.
jusqu'au 21
mai. Et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'été chez 7 milliards de voisins et chaque jour je vous emmène dans une ville différente pour y sentir les heures s'écouler autrement, lentement parfois à cause de la chaleur. Aujourd'hui, vivre dans une ville austère, Riyad, avec Clarence Rodriguez. Clarence Rodriguez, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission, une ville pesante, de par les températures, on en parlait en première partie d'émission, près de 50 degrés l'été. Vous êtes la correspondante, entre autres, pour RFI, vous publiez aussi Révolution sous le voile, 8 femmes racontent leur combat pour leurs droits, et vous êtes la seule femme journaliste accréditée à Riyad.
C'est ça, depuis 2005, et quand je suis arrivée, effectivement, il n'y avait aucun journaliste, même aucun journaliste occidental. C'est-à-dire que j'ai été la première journaliste occidentale.
Homme comme femme ?
Homme comme femme, absolument. Et ensuite, il est arrivé donc un journaliste américain et puis quelqu'un de l'AFP. Et puis voilà, donc la seule journaliste française à ce jour.
Ça veut dire quoi en termes d'autocensure ? C'est quelque chose de totalement intégré chez vous, dans votre inconscient, l'autocensure, le fait que vous ne pouvez pas vous exprimer de la même façon que si vous travaillez en France ?
Je pense que déjà, il y a une conscience professionnelle vis-à-vis du pays qui vous accueille. On est en Arabie Saoudite, il est évident qu'on connaît les règles. Inconsciemment, comme vous le dites, moi, les règles, je les connais. Donc, je sais très bien ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher d'aborder un certain nombre de sujets. Je vais peut-être les aborder différemment, en empruntant peut-être un itinéraire bis, de sorte que l'on comprenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est une démarche intellectuelle, mais
sinueuse.
Qui est sinueuse, mais c'est la vie qui est là-bas aussi, vous voyez. L'écriture, je veux dire, la façon de narrer ou de raconter ce que l'on voit, etc., de par l'expérience, c'est sinueux. Effectivement, je m'empêche empêche. En tous les cas, je vais vous dire, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, même dans mon écriture. Je me suis davantage lâchée, franchement, même par rapport au livre. Il y a beaucoup de choses que je relate, et on va toucher du bois. Il n'y a jamais eu, vous voyez, il n'y a pas aucune censure.
On avance jusqu'aux frontières de la tolérance. C'est ça, on essaye de toucher. Et puis quand on touche les murs, on recule.
Vous les connaissez, ces murs, avant même de les toucher. Vous les connaissez.
Alors justement, on va mettre les plaies dans le plat aujourd'hui. Une journée à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, plus de 5 millions d'habitants. Une journée qui est avant tout, que l'on soit expatrié ou saoudien ou saoudienne, rythmée par la prière.
Voilà, il y a 5 prières. Bon, la première, en fait, elle est très tôt le matin, donc on n'est pas tellement touché ou affecté. En revanche, dans la journée, c'est vrai, vous avez raison, votre journée est rythmée par les prières. Donc il faut connaître. Alors, vous avez des portables d'ailleurs, vous êtes équipé avec des prières, etc. Vous avez des
applications.
Des applications. C'est vrai que moi, j'ai toujours pas mis l'application, donc du coup, je sais jamais exactement quand ça tombe. Et souvent, je me retrouve à 10 minutes de la prière, ce qui fait que je suis dans un magasin. Je suis dans une grande surface et je pousse mon chariot, parce que là, on est dans la réalité, dans le concret. Et puis, appel à la prière. Alors là, dire c'est pas possible. En plus, vous dites, oh là là, il faut que je rentre à la maison parce que bon, j'ai des choses à faire, etc. Et en fait, tout est dans le stress.
Mais c'est-à-dire il se passe quoi à ce moment-là ?
En fait, ils ferment tout. Ils ferment, si vous voulez, donc les rideaux. Et puis, vous avez la police religieuse qui veille, à ce que le magasin soit fermé.
Donc, on entend un mouezzin dans l'hypermarché ?
Oui, absolument, absolument. Alors, il y a deux choses. Ou vous quittez le magasin, c'est-à-dire vous sortez, ou alors...
Les mains vides, on n'a pas pu payer ?
Non, vous laissez votre chariot. Et là, ce qu'il y a, c'est que vous avez beaucoup de gens, ou de clients, en tous les cas, qui disent c'est la prière, etc. Ils n'ont pas envie de se laisser enfermer, parce que vous pouvez vous laisser enfermer avec votre chariot, etc., en attendant que les caissiers rouvrent, en fait, leur caisse. Mais sinon, vous partez et vous laissez votre chariot. Alors parfois, vous vous retrouvez avec, si vous voulez, des chariots devant les caisses, mais bondés. Mais les gens sont partis, ils s'en moquent complètement.
Tout s'arrête pendant combien de temps dans cet hypermarché, cette scène
Ça dépend, ça peut être 20 minutes, 3 quarts d'heure, selon les...
Ça dépend de quoi ?
Ben, ça dépend de l'heure de la prière. Alors, vous avez la prière qui est à vers midi moins 10, par exemple. Alors, ça peut changer, ça peut varier 5 à 10 minutes. Elle fait à peu près une demi-heure, 40 minutes. Oui, c'est long. Puis vous avez également le soir à 20h, qui est très longue. Celle-ci, elle est en 3/4 d'heure, effectivement. Là, c'est... Donc voilà, donc du coup...
Une forme de stress dans ce berceau du wahhabisme, oui, et de l'islam rigoriste.
Oui. Et vous avez du mal. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Je n'arrive pas à le gérer, à l'intégrer, si vous voulez. Parce que vous êtes en mode occidental, parce que vous vivez là-bas. Et donc, vous êtes en train de travailler. Vous dites, tiens, il faudrait que j'aille faire quelques courses. Sauf que, ah ben non. C'est pas possible, c'est la prière. Alors, on calcule, on se dit, bon, alors, la prière est à 16h, donc on va partir à 15h30, parce que tout est long. Comme ça, quand on arrivera, le magasin va rouvrir, vous voyez.
Et les Saoudiennes, que font-elles lorsque c'est Salah?
Les Saoudiennes, alors vous en avez certaines qui se retrouvent, par exemple, dans les cafés, les restaurants. Elles se retrouvent entre elles, elles se laissent enfermer devant leur thé, leur café. Et elles mangent énormément. Parce que vous savez, la baya, qui est la robe noire, finalement, c'est un piège. Parce qu'en fait, on ne voit pas vos formes. Et donc, si vous mangez beaucoup, on ne voit pas que vous grossissez forcément. Et on peut se laisser piéger par, justement, parce que vous ne voyez pas...
Un piège ou une tolérance au surpoids, d'ailleurs?
Dernièrement, il y a eu une étude américaine. Les Saoudiennes arrivent en tête. 70% des femmes, les Saoudiennes, sont obèses. Vous savez, elles ne peuvent pas pratiquer de sport. Ou très peu. Celles qui ont les moyens, elles vont aller dans les salles de sport, en fait. Mais elles ne pratiquent pas. Donc, vous savez, on ne marche pas beaucoup là-bas. Y a pas, les trottoirs, il n'y en a pas. Vous ne marchez pas dans la rue. Vous ne vous dépensez pas. Donc, elles tuent l'ennui en buvant du thé sucré. Enfin, voilà. Donc,
عسى يردك حنينك
يا شوق عيني يا عينك
يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك
C'est du 100% saoudien, Abdul Majid Abdullah Yatayeb Al-Galb. Dur d'établir un programme musical pour Riyad, vivre dans une ville austère, ou alors on accepte cette dualité que vous nous racontez depuis le début de l'émission, Clarence Rodriguez, correspondante pour RFI, ou cette forme de schizophrénie.
Alors, la musique ?
Ah bah écoutez, alors,
c'est vous qui nous avez proposé ça.
Absolument. En plus, je vais vous dire, j'ai été quand même, on va dire, assistée d'une amie, Oda, à LSI, qui est une enseignante et qui adore la musique, mais chez elle. Parce que figurez-vous que la musique, vous ne pouvez pas l'apprécier. On parlait tout à l'heure des magasins. Dans les grandes surfaces, vous n'avez pas de musique. Dans les magasins, nulle part, vous avez de la musique.
Dans les bars, dans les cafés,
Il n'y a pas de musique. En fait, voilà, c'est proscrit. C'est voilà. Alors, ils essaient dans certains lieux, vous voyez, bon, dans quelques lobbies, on va dire les halls. Mais c'est voilà, la musique, c'est tabou, alors que les gens adorent. Et puis vous avez vu, c'est quand même un joli programme musical.
Ah oui, ça, alors on écoute ça où finalement ?
Eh ben, à la maison, chez soi. Parce qu'on parlait aussi de cette dualité. Ils adorent se recevoir, ils adorent, enfin les Saoudiens adorent quand même la fête, mais on ne voit pas, à partir du moment où on ne voit pas.
Derrière les murs des maisons.
Eh oui. Des maisons fermées, enfin, des murs très très hauts. Et donc ils adorent recevoir, ils se reçoivent énormément, ils adorent, d'ailleurs ils sont très accueillants. Les Saoudiens sont très accueillants, même les Saoudiennes. Je veux dire que c'est la convivialité, si vous voulez, aux portes de leur maison. C'est...
Derrière les murs des maisons, ouais. Là, il y a cette mixité entre les hommes et les femmes ou pas ?
Alors, ça dépend chez qui vous allez. Moi, j'ai des amis, il y a la mixité, le mari est là avec son épouse, il y en a d'autres. C'est chacun, vous voyez, les maisons sont faites. Vous avez un salon pour les femmes, donc pour madame qui reçoit ses copines, et vous avez un majlis, c'est un salon en arabe, un salon pour les hommes. Et jamais ils se croisent. Ça, c'est aussi une autre façon de vivre dans les maisons saoudiennes. Mais... de plus en plus, je veux dire, voilà, chez les gens qui ne sont pas très conservateurs. Parce que c'est ça aussi, hein, vous avez quand même une majorité de gens qui sont conservatrices, on va dire, et d'autres qui sont justement progressistes et qui épousent, j'ai envie de dire, la culture occidentale, musicale.
Et ça fait une grosse différence dans la vie quotidienne, effectivement, mais globalement, au regard des règles, au regard des lois, la non-mixité, ça a quelle incidence sur la vie quotidienne ? Je parle là des espaces publics et pas de ce qui se passe derrière les murs des maisons.
Mais là, en fait, si vous voulez, on ne peut pas se retrouver à prendre un verre, par exemple, vous voyez, c'est... on ne peut pas se retrouver à prendre un verre avec un homme.
Alors pour une interview, pour vous ?
Ça se fait soit dans le quartier diplomatique, soit ça se fait aussi chez moi, dans mon bureau. Mais ça ne peut pas se faire, si vous voulez, dans la rue. C'est absolument impossible. Vous voyez, ça fait partie des choses que l'on intègre aussi. Hein. On n'a pas le droit de se retrouver avec... mais même dans une voiture. Alors, vous voyez le paradoxe. Vous avez un chauffeur qui n'est pas votre mari, vous passez plus de temps avec le chauffeur étranger qu'avec votre époux. Moi, je passe plus... enfin, quand j'avais mon chauffeur, j'étais plus souvent avec lui, donc derrière quand même... qu'avec mon mari.
Il y a d'ailleurs souvent dans le golfe persique des histoires, hein, entre les chauffeurs et les épouses.
Oui, hein, certainement. Ouais. Certainement.
Clarence Rodriguez, depuis 9 ans, plus de 9 ans que vous vivez à Riyad, est-ce que la ségrégation des hommes et des femmes a évolué ? Je pense aux restaurants notamment.
Oui. Écoutez, c'est vrai que les choses avancent à petits pas comptés, comme on dit, mais ça avance. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai pu constater, quand je suis arrivée, dans les restaurants, vous avez la family section, c'est-à-dire que vous êtes avec votre époux, les enfants, et donc vous ne pouviez pas être avec les femmes célibataires, etc. Et là, c'est la tour Fessalia, notamment, il y a un endroit où vous avez les court food, vous voyez, donc où on mange, et les snacks, etc. Et là, ils ont fait tomber le rideau. Voyez, vous avez d'autres restaurants où vous avez des hommes mélangés à des femmes. C'est-à-dire que ça se fait petit à petit.
Et ça change vraiment quelque chose, ça ?
Oui.
Vu de loin, on se dit.
Oui, 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 ça change. Et c'est ça. En fait, si vous voulez, cette évolution, ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite, et moi, je le vis vraiment au quotidien, ce sont des petites avancées qui, pour nous, quand on est à Paris ou ailleurs, on ne se rend pas compte. Mais là, c'est quand même très important.
Même un rideau qui tombe, un simple rideau.
Un rideau, c'est un mur. C'est le mur de Berlin, en gros. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça tombe. Mais on ne se rend pas compte, parce que la veille, vous aviez ce rideau, le lendemain, vous arrivez. Bon, c'est vrai, vous constatez qu'il n'y a plus le rideau, et vous voyez les femmes qui sont là, qui mangent. Alors, elles ont toujours le niqab, donc elles mangent, vous voyez, en soulevant leur niqab, le voile. Mais il y a des hommes. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et ça se fait petit à petit. Et d'ailleurs, c'est ce que souhaite le roi Abdallah. Parce que le roi Abdallah est progressiste, c'est lui qui fait avancer les choses et qui veut que les femmes avancent, voyez, intègrent la société. Parce que quand même, l'Arabie Saoudite fait partie du G20. L'Arabie Saoudite, premier pays exportateur de pétrole au monde. Je veux dire, c'est un pays qui compte, si vous voulez, dans le monde. Donc, mais arriéré, je suis désolée, mais par certains côtés, on va dire, mais les choses sont en train d'être distillées. Alors, bien évidemment, il y a quand même encore, je veux dire, quelques années avant que tous ces rideaux tombent.
Le paradoxe de la mixité, c'est qu'on a encore, même maintenant, et beaucoup il y a quelques années, des hommes qui vendaient de la lingerie et des cosmétiques pour des femmes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de travailler.
Exact.
C'est ubuesque.
Ubuesque, c'est vrai que quand vous alliez dans ces magasins, pas plus tard qu'il y a 2 ans, parce qu'il faut bien savoir que c'est que depuis 2 ans que les femmes peuvent vendre dans les magasins de lingerie, mais également de cosmétiques. Et vous n'aviez que des hommes. Et effectivement, vous demandez votre tour de poitrine, votre taille, enfin, franchement, de sous-vêtements. Et c'est vrai que c'est un paradoxe incroyable.
Ça ne choquait pas.
Bah si, parce que franchement, quelque part, vous vous dites, mais attendez, comment ça se fait? On est dans un pays où la mixité n'existe pas, ce sont des hommes qui vous vendent quand même de la lingerie, les produits cosmétiques. Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était une crème hydratante, mais c'était quand même des hommes qui étaient quand même dans les kiosques, vous voyez. Bon, et là, depuis 2 ans, on assiste quand même, on va dire, à une espèce de révolution silencieuse.
Alors, que dit la loi sur le travail des femmes aujourd'hui?
Alors, en fait, les femmes sont autorisées à vendre de la lingerie, et d'ailleurs, je vais vous dire que tous les propriétaires de magasins sont pénalisés encore aujourd'hui, pour ceux qui, les derniers des Mohicans, vous voyez, qui sont là, s'arc-boutés en disant, ben non, ce sont, on va mettre des hommes quand même vendeurs. Ben, soit ils ferment le magasin, soit ils sont expulsés.
Les femmes n'y vont plus.
Les femmes peuvent y aller, mais les propriétaires sont punis par les autorités.
Mais le droit de travailler pour les femmes, ça se résume à quoi? Par les boutiques de lingerie et de cosmétiques?
Alors, vous avez maintenant des ingénieurs, vous avez des avocates très importants pour défendre les droits de la femme. Parce que les hommes ne pouvaient pas s'occuper d'elles. Ils connaissaient pas la subtilité de la femme. Et là, c'est très important, c'est une grande avancée. Les femmes, tout récemment, agents de sécurité dans les centres commerciaux, pour défendre justement ces femmes qui travaillent.
Dans des centres commerciaux mixtes?
Mixtes, parce que, en fait, je vais vous dire, le problème, c'est que vous avez des jeunes qui sont dans les centres commerciaux et qui essaient d'enquiquiner les femmes qui travaillent, vous voyez, on en est là. Vous avez des femmes pilotes, maintenant, vous avez 2 femmes pour l'instant pilotes.
Ouais, mais des femmes salariées dans des entreprises mixtes, ça se voit dans des bureaux aujourd'hui?
Alors, elles sont dans les entreprises, elles travaillent, mais avec des séparations. Et dernièrement, moi j'ai appris justement dans une grande entreprise, donc voilà, il y a eu une descente de Motawa. Donc vous savez, c'est un peu up and down.
C'est-à-dire Motawa, là?
Les Motawa, c'est la police religieuse, voyez. Donc il y a des moments où vous êtes là, vous dites il ne se passe rien, et d'un coup, vous avez une descente de Motawa pour voir si les responsables de l'entreprise respectent à la lettre la charia.
Vivre dans une ville austère, Riyad avec vous, Clarence Rodriguez, et puis cette opposition permanente entre les conservateurs et les progressistes. On est dans une ville jeune, hein, 75% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Alors qui sont ces jeunes? À quoi rêvent les jeunes? On y revient.
خلوا إيمانكم قوي ربنا واحد أمة واحدة نحب الوطن الراس فوق أيدي متحدة فساد وكره وحق أعمى ما يصير التفت في التفكير هذه بداية تغيير One blood, one love, we share in the silent Islam is the religion that we share in common It's about time that we stop dividing And our forces of this unity is combining Bahrain unite, history will write Coming out from the tunnel, heading straight to the light We will fight tight, stronger from tonight, despite all the hype, we taking a flight من المحرق لرفاع المدينة وعالي لسانة مدينة حمدان وعوالي كلنا شعب واحد يبقى كلنا عرب الوحدة متحدين بإذن الله يا رب
We've got to stop the wrong fire It's causing all that smoke that is blocking the light from the sky Most of our wounds are friendly
stand tall with my waving flag. Always say what's on my heart and never take it back. Do it for Lebanon, I put it on the map. I don't got a front, got the whole country on my back. And it's not a tat, this is not an act. Arab world unite, we are under attack. Stop the foolish pride, this is do or die. When will you learn to put religion to the side? And I just wanna see the Middle East shine. And if they want war, hit them with a peace sign. Follow me, somebody gotta lead them. I do this for anybody who be fighting for their freedom.
Eid wahdi, kilmi wahdi, ummi wahdi. Dut safari, ahli fitni, abda wahdi. Khutta wahdi, nabra wahdi. Raya wahdi, hawiya wahdi, nabda wahdi. نرجع بالعز للحضارة العربية ونزين الكرامة بالنكهة الشرقية. ضد الطائفية عن جهية صهيونية ازدواج المعايير الغبية. نحن جبل ضد الريح العتية وبين الأمة منحتل العضوية الذهبية. من الأراضي الحلبية السورية عبد الرحمن مرتوازي بيفتخر بهالقضية.
We've got to stop the wrong fire. It's causing all that smoke that is fucking the light from the sky. Most of our rules are friendly fire. All the hate in the world will stop before the Arabs unite. 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 Arabs unite.
Clarence Rodriguez avec nous chez 7 milliards de voisins. Vivre à Riyad, vivre dans une ville austère, série d'été, des Français de passage dans le studio de RFI. Vous êtes correspondante pour RFI, Clarence Rodriguez. Et vous nous faites découvrir là un rappeur saoudien.
Oui.
Qu'on vient d'entendre, Arab World Unit.
Koussaï.
Ouais.
Ah, c'est un jeune, c'est une star. En Arabie Saoudite et dans le Golfe, c'est une star, c'est le roi du hip-hop. Alors c'est un jeune qui est parti donc aux États-Unis parce que, encore une fois, il ne pouvait pas vivre sa passion qui est la musique. Donc il est parti, il s'est expatrié, mais il est quand même revenu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces jeunes, là en ce moment, il y a 250 000 jeunes qui étudient à l'étranger. Ce sont des jeunes qui reviennent, comme Koussaï, bon là c'est la musique, mais vous avez tous ces jeunes qui reviennent aux sources. Vous voyez, ils s'inspirent bien évidemment, parce qu'ils reviennent avec un état d'esprit. C'est comme ça d'ailleurs que la population évolue. Ce sont ces jeunes qui vont étudier et qui reviennent avec un autre état d'esprit. Et ce sont eux qui font bouger la société saoudienne. C'est par eux, par ces jeunes gens et jeunes filles qui étudient actuellement à l'étranger, en France, aux États-Unis ou partout dans le monde, et ils reviennent avec autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'ils restent dans le pays où ils étudient. Ils veulent revenir pour apporter quelque chose de concret.
Et ensuite, il y a ce va-et-vient qui s'organise.
Exactement.
Être jeune à Riyad, c'est-à-dire qu'on fait quoi alors le week-end, les loisirs?
C'est assez limité. Franchement, alors les jeunes, soit quand ils sont autorisés, ils arpentent donc les centres commerciaux. D'autres prennent les voitures, vont faire des rives dans le désert. Voilà. Il y a d'ailleurs des accidents mortels. Et puis vous en avez d'autres qui retournent un petit peu aux sources, le côté un peu bédouin, on va dire, et qui se retrouvent, sont des petites grappes que vous voyez d'ailleurs le long des routes. Et souvent le soir, d'ailleurs.
Alors, le long des routes à l'extérieur de la ville.
À l'extérieur de la ville, et même, je vais vous dire, proche centre-ville d'ailleurs. Et ils se mettent sous des lampadaires. Et donc, soit ils jouent aux cartes, à la belote, etc. Ils font des pique-niques. Alors, vous voyez des taches blanches parce que ce sont les hommes avec les tobes. Et vous avez les taches noires, les femmes, parce qu'elles sont en abaya. Et donc, voilà, ils se retrouvent là.
On recherche ce contact avec le sol, finalement. Pourquoi?
Oui, parce que, d'ailleurs, même dans les maisons, vous avez des canapés, etc. Ils ont besoin d'être à même le sol, avec des tapis. Et puis des petits coussins, vous voyez, pour s'accouder. Mais
voilà, on est rappeur et bédouin en même temps.
Oui, exactement.
C'est ça. C'est la schizophrénie.
C'est exactement
ça. Clarence Rodriguez, vous vivez depuis presque 10 ans maintenant à Riyad en tant que journaliste. Vous revenez évidemment régulièrement en France. Quel réflexe inutile vous conservez de la ville austère quand vous arrivez dans la ville lumière à Paris?
Quand j'arrive, je me dis, oh, ça y est. Je suis chez moi, parce que je ne suis pas chez moi là-bas. J'ai beau vivre depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Et donc, si vous voulez, le moindre détail, même, vous voyez, un square, il y a un arbre, je m'extasie devant un arbre. Alors, ça paraît un petit peu, voilà, un peu stupide en tous les cas, mais j'ai plus l'abaya, j'ai plus cette robe noire que je suis obligée de porter en public. Et je suis fière d'aller chercher ma voiture à l'agence de location, donc, et de conduire. Et puis je vais vous dire franchement aussi, ça va vous faire sourire, mais j'ai appris une chose, c'est la patience. Quand je conduis, quand je suis dans les embouteillages, je ne klaxonne plus, parce que je suis tellement heureuse de pouvoir conduire que, en fait, voilà, c'est l'extase. Mais c'est des petites choses comme ça. C'est dans les magasins, vous avez effectivement l'abondance, vous voyez, c'est...
L'abondance en France, une vie minimaliste finalement, malgré l'opulence, l'incroyable opulence des habitants à Riyad, oui.
Ah mais je vais vous dire, c'est pas pareil, on n'a pas...
Quand on vous avez dit, j'ai une vie minimaliste à Riyad.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire quoi ?
Oui, ben, ça veut dire que je ne vis pas comme ici, c'est-à-dire que, un, je ne me déplace pas facilement, déjà, comme je vous l'ai raconté.
Donc je travaille.
Donc je travaille, j'écris beaucoup, j'écris et voilà, donc c'est effectivement...
Le résultat.
Je m'occupe de mes enfants quand même aussi.
Révolution sous le voile, ça c'est le livre que vous publiez. Huit femmes racontent leur combat pour leurs droits et c'est chez First Edition. Merci beaucoup à vous Clarence Rodriguez
d'être passée
par le studio de 7 milliards de voisins pour nous livrer une petite portion de cette vie quotidienne dans une ville austère, Riyad. Merci.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac à la réalisation pour toutes vos réactions. 7 milliards@rfi.fr. Et demain, suite de la rediffusion de notre série d'été spéciale Vivre en ville, demain ce sera Vivre dans une ville Orient-Occident, Tbilissi, en Géorgie.